Europe 1, il est 8h.
C'était plus facile de parler des États-Unis que de parler de ce qui se passe en France. Mais malheureusement, ce qui se passe aux États-Unis, nous aussi, on y a le droit ici.
Comme un parallèle entre Minneapolis et Beaumont-sur-Oise, les 20 000 personnes de la manifestation pourtant interdite hier soir à Paris avaient deux icônes, Adama Traoré et George Floyd. Dans le Minnesota, quand les magasins ont été au pire brûlés, au mieux pillés, c'est par les banques alimentaires que s'organise l'approvisionnement des habitants.
Tous les magasins ont été pillés, vandalisés, aucun commerçant ne veut ouvrir.
Reportage de notre envoyé spécial. Dans ce journal, la déclaration de revenus, Europe 1 vous aide pour cette corvée annuelle. Les experts comptables vous attendent au standard du 39-21. C'est 50 centimes la minute, beaucoup moins cher qu'un redressement fiscal. Et puis, si vous êtes en train de planifier vos vacances, pensez à tous ces petits patrons et artisans qui vont devoir cravacher tout l'été pour effacer les retards dus au confinement.
15 jours de vacances ou 3 semaines de vacances en moins, c'est vrai que c'est un peu dur, quoi. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut sauver l'entreprise quoi qu'il arrive, quoi.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit l'ancien marcheur Cédric Villani, candidat au municipal à Paris. À 8h30, vous entendiez ces artisans qui vont faire des efforts cet été. Je vous pose cette question. Salaire, vacances, êtes-vous prêt à faire des efforts pour relancer l'économie? L'avocat en droit du travail, Kevin Mention, sera en direct pour échanger avec vous au 39-21. Juste avant 9h, Nicolas Canteloup et la revue de presse. Très bon réveil à tous.
Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, François Geffrier.
Une forme de convergence des luttes, mais avec l'Atlantique au milieu. Adama Traoré, mort il y a 4 ans en France lors d'une arrestation. George Floyd, il y a 10 jours aux États-Unis. Hier soir à Paris, la manifestation était interdite. Tout rassemblement de plus de 10 personnes étant sanitairement proscrit. Pourtant, la préfecture de police a compté 20 000 personnes.
Et on a recensé des incidents dans la soirée. Théo Manval était sur place pour Europe 1, près du tribunal de Paris. Le rassemblement avait démarré dans le calme, mais avec une vraie colère.
Aujourd'hui, quand on se bat pour George Floyd aux États-Unis, on se bat pour Adama.
Sur le parvis du tribunal, les pancartes justice pour Adama côtoient le slogan américain Black Lives Matter. Assa Traoré fait le parallèle entre la mort de son frère en 2016 et celle de George Floyd la semaine dernière. Et si la foule est aussi dense, disent Boubacar et Mustapha, c'est qu'on est finalement nombreux à avoir ressenti la même chose face aux images de Minneapolis en boucle sur nos télévisions.
C'était plus facile de parler des États-Unis que de parler de ce qui se passe en France. Mais malheureusement, ce qui se passe aux États-Unis, nous aussi on y a le droit ici.
Il est mort de la même manière, ils ont dit les mêmes mots avant de mourir. Je n'arrive plus à respirer.
Dans la foule, beaucoup de jeunes, le spectre partout du racisme.
On nous a jamais acceptés, on nous tolère. Même les adultes, on a peur de notre police.
Joe Star, Abdelmalik ou Adèle Haenel sont là. En soutien à ces cris de colère pacifiques, mais à l'heure de la dispersion, entrent en scène les groupes de casseurs.
Ils ont brûlé des poubelles.
Je me suis dit que jusqu'au bout, on allait faire quelque chose pacifiquement, mais au final, il y a toujours des personnes pour salir ce qu'on a fait juste avant.
Et rendre presque inaudible au milieu des débris d'abribus le message originel du refus de la violence.
Et dans le journal de 7h, on entendait le maire du 17e arrondissement demander des explications au ministre de l'Intérieur. Il y a eu 18 interpellations.
La famille d'Adama Traoré a présenté une nouvelle contre-expertise médicale mettant en cause le plaquage ventral réalisé par les gendarmes ce jour-là, ce qui allonge encore la liste des rapports contradictoires sur cette affaire. À Minneapolis, aux États-Unis, le calme est revenu, mais les destructions et les pillages ont laissé des quartiers sans ressources. Les habitants improvisent un peu partout des banques alimentaires. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Xavier Yvon.
Le terrain vague à côté de la bretelle d'autoroute est désormais le seul endroit du quartier où l'on peut trouver à manger. Des dizaines de bénévoles s'activent à trier les donations tandis que les habitants se pressent autour des tentes de distribution. On vit dans un désert alimentaire ici, explique Paul, venu remplir ses sacs de couches, de pâtes et de céréales pour ses 5 enfants. Tous les magasins ont été pillés, vandalisés, aucun commerçant ne veut ouvrir, se lamente Linda derrière sa visière de protection. Je comprends que les gens veuillent se faire entendre, mais casser son propre quartier, ça me brise le cœur, dit cette femme âgée qui raconte ses difficultés pour se déplacer. Ici, c'était déjà un quartier déshérité et touché de plein fouet en plus par la crise économique, explique Shay, l'organisatrice de cette banque alimentaire improvisée. Dan, par exemple, raconte qu'il a perdu son boulot dans un magasin d'articles de sport à cause de la pandémie. Avec le déconfinement, il pensait retrouver son travail, mais ses espoirs sont partis en fumée. Le magasin a été brûlé, dit-il. Il ne rouvrira jamais. Fin de la distribution pour aujourd'hui, annonce Shay. Elle doit reprendre des forces, dit-elle, car sa banque alimentaire milliardaires de fortune risque de rester ouverte encore longtemps. Minneapolis, Xavier Yvon, Europe 1.
Et hier soir, l'ancien président des États-Unis, le républicain George W. Bush, a évoqué les injustices raciales. Il est temps pour l'Amérique d'examiner nos échecs tragiques, dit-il.
L'actuel patron de la Maison-Blanche, Donald Trump, reste sur sa ligne de fermeté. Il a par ailleurs l'esprit occupé par le futur G7, auquel il voulait inviter Vladimir Poutine. Mais Vincent Hervouette, ça ne va pas se faire.
Le G7, c'est un club de présidents de pays riches et libres qui dînent ensemble une fois par an. Les États-Unis et le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Japon, ça fait bien 7. Ils ont fait ensuite une place à l'Union européenne, à la table des maîtres du monde. Et souvent, les derniers arrivés sont des gardiens vigilants du temple. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a un titre inversement proportionnel à son influence dans le monde, mais il vient d'opposer son veto à Donald Trump.
Oui, selon lui, donc Joseph Borrell, le pays organisateur n'a pas le pouvoir de changer la composition du G7.
Donald Trump doit fournir le gîte et le couvert, pas une nouvelle règle du jeu. La Russie a été suspendue quand elle a annexé la Crimée, elle ne la rendra jamais, elle reste en quarantaine, c'est la vie de Bruxelles, une histoire belge. Le Donald s'est ennuyé 4 ans de suite au G7 sans prendre la peine de le cacher. Son idée fixe est la Chine et il voulait inviter, avec la Russie, la Corée, l'Inde, l'Australie, autant de voisins qui se méfient de Pékin. C'est raté, fallait être plus diplomate. Mais sur le fond, il a raison. Le monde a changé depuis 45 ans et encore plus depuis 3 mois. L'Union européenne a été débordée. Les organisations internationales comme le G7 n'ont servi à rien. Tout est à reconstruire. Mais ce ne sera pas au G7 de Donald Trump.
Vincent Hervouette et son regard international tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1. Reste à voir si ce G7 réunira physiquement les grands dirigeants ou devra se tenir par visioconférence. L'entreprise Zoom, spécialiste du sujet, annonce cette nuit avoir augmenté son nombre de clients payants de 354% en un an.
Restons dans le domaine du travail, avec cette douloureuse décision que de nombreux artisans sont contraints de prendre, renoncer à leurs vacances d'été.
Oui, ce que Roman Hoquet a interrogé pour Europe 1 mettent en avant le manque à gagner, bien sûr, du confinement.
15 jours de vacances ou 3 semaines de vacances en moins, c'est vrai que c'est un peu dur, quoi. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut sauver l'entreprise, quoi qu'il arrive, quoi.
Tant pis pour les vacances en famille, le chef d'entreprise sera sur les chantiers tout l'été. Avec le confinement, Gaël a perdu 25% de son chiffre d'affaires annuel.
Là, on a actuellement du travail jusqu'à fin août, entre les chantiers qu'on rattrape et quelques nouveaux qui sont arrivés. L'été va être crucial et surtout, là, on est vraiment en branle-bas de combat là, pour étudier tout ce qui s'offre à nous, quoi.
Le défi, c'est aussi d'avoir des bras pour répondre à cette demande. Impossible de prendre des vacances cet été. Certains artisans ont dû négocier avec leurs salariés. Chez Martine, esthéticienne, ça s'est fait naturellement.
Les salariés se sont proposés d'elles-mêmes de différer leurs vacances. Elles ont envie de sauver leur emploi. C'est une façon de participer, on va dire, à l'effort que moi j'ai fait en les mettant en activité partielle. Eh bien, elles répondent à ça en répondant présente, si j'en ai besoin.
Des employés qui devront aussi être disponibles après l'été, en septembre, pour l'affluence de la rentrée. Les congés, ce sera cet hiver, explique Martine, une fois qu'on aura remonté la pente.
Et ce matin, notre débat à 8h30. Vous entendez donc ces artisans qui doivent renoncer à leurs vacances, des petits patrons en l'occurrence. Il y a des salariés aussi avec lesquels on a un débat sur le temps de travail, sur les salaires, le 13e mois. Vous avez entendu aussi ces dirigeants de Ryanair qui font du chantage auprès de leur personnel. Baissez vos salaires ou l'on devra licencier. On vous pose la question. Êtes-vous prêt à faire des efforts pour relancer l'économie? Des efforts, voire des sacrifices. C'est peut-être le mot aussi. 3921, le hashtag Europe 1. Débat à partir de 8h30.
Notre point quotidien sur l'épidémie, 1253 patients en réanimation, la baisse continue et 402 personnes sorties guéries des hôpitaux hier.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Les impôts, votre déclaration de revenus, c'est la saison. Vous avez des questions. Les experts comptables vous donnent les réponses grâce à Europe 1.
Il est 8h11 sur Europe 1, le journal se poursuit. François Geffrier, Mathieu Béliard.
Le temps presse pour remplir votre déclaration de revenus. C'est jusqu'à demain soir, 23h59, si vous êtes dans les départements numérotés de 1 à 19.
Pour les autres, c'est jusqu'à lundi soir ou jusqu'à jeudi de la semaine prochaine. Le temps presse donc et le temps, c'est de l'argent. 50 centimes la minute, c'est le tarif pour avoir des conseils d'experts comptables. Ils sont une centaine qui vous attendent au standard d'Europe 1, le 39-21.
Bonjour Laurent Benoudise.
Oui, bonjour.
Vous êtes président de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Rentrons dans le concret tout de suite. On a parlé d'une déclaration automatique. Dans les faits, il faut bien sûr la relire, vérifier. Est-ce que vous avez, pour les auditeurs d'Europe 1, des points de vigilance particuliers sur lesquels alerter?
Alors, Cette année, effectivement, c'est une année un peu particulière parce que c'est la première année qui suit l'année blanche. Vous savez, en 2018, on n'avait pas eu de taxation sur nos revenus. Et donc, il faut être un peu vigilant quand même, notamment en matière de revenus fonciers. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est en matière de crédit d'impôt, de modernisation du recouvrement, le CMR. Vous voyez, c'est ce qui permet d'annuler les impôts de l'année 2018. Eh bien, il faut s'assurer qu'en 2019, on peut obtenir éventuellement encore une restitution. C'est un peu compliqué, mais voilà, il y a deux, trois points à regarder avec cette histoire d'année blanche.
Le droit à l'erreur qui a été mis en place par le gouvernement, qu'est-ce que ça change pour nous, contribuables ?
Ah bah, on a la possibilité, lorsqu'on fait une erreur, de corriger et de rectifier. On peut se reconnecter sur sa déclaration d'impôt et dans ces cas-là, il n'y a aucune pénalité qui est appliquée et l'administration est particulièrement bienveillante. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'en cas d'erreur involontaire, même si c'est l'administration qui s'en aperçoit, eh bien, là aussi, la correction se fait de manière automatique, sans pénalité. Alors, évidemment, si chaque année vous faites une erreur, ça devient un peu plus compliqué.
Merci Laurent Benoudi. On le rappelle, hein, 39-21 jusqu'à 19h ce soir. Merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, président de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Cette opération spéciale d'Europe 1 en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France.
Europe 1, il est 8h13.
Et on pourrait se dire que finalement, remplir sa déclaration de revenus, c'est un jeu d'enfant. Chacun ses passions. Les jeux vidéo...
On en sait plus sur les week-ends de François Desprier.
En tout cas, les jeux vidéo ont cartonné depuis 3 mois, la période étant un peu anxiogène. Des jeux plus cool, plus bienveillants ont été ultra téléchargé et Clément Le Saffre, ça passait aussi par la bande-son.
Cette musique, c'est celle d'Animal Crossing. Elle a rythmé les journées confinées de 13 millions de joueurs, un succès fou pour ce jeu, aussi joyeux qu'apaisant, qui propose simplement de faire vivre une communauté sur une île déserte, pas d'ennemis, pas de chrono et pas de stress. Une formule magique qui fait des émules, plusieurs studios se sont réunis sous la bannière des Wholesome Games. Ils ont présenté 50 nouveaux jeux bienveillants, comme Kind Words au concept évocateur, dans un environnement douillet avec une musique relaxante, il faut simplement écrire des mots gentils à envoyer au hasard à d'autres joueurs. De l'émotion plutôt que de l'action XXL, c'est aussi le concept de The Spirit and the Mouse où l'on incarne façon ratatouille une souris qui aide les humains à aller mieux. Animaux toujours, Calico, dans lequel on doit gérer un bar à chat, promet également une expérience pleine de douceur. Souvent conçus avec des moyens limités, parfois même en financement participatif, ce ne sont pas les jeux les plus beaux ni même les plus impressionnants, mais ce sont des jeux qui font du bien.
Ça fait du bien avec des musiques très relaxantes, Clément Le Saffre, qu'on retrouve pour sa chronique jeux vidéo chez Philippe Vandel entre 9h et 11h aujourd'hui.
Soi-disant dans la détente, François Geffrier, j'aimerais vous voir gérer un bar à chat, vous. Hein, François
Geffrier. Plus tableau Excel, effectivement.
Oui, plutôt à remplir des déclarations de revenus. François Geffrier, c'était le journal de 8h, merci beaucoup. À 8h14, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre invité aurait-il commis une erreur de calcul ? De calcul politique. Pourtant, Cédric Villani est un très grand mathématicien, mais est-il un habile candidat ? Aucun accord à Paris, il fait cavalier seul, au risque de finir en solitaire ? Interview à suivre.
A tout de suite sur Europe 1.
Il est 8h17, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Cédric Villani, candidat au municipal à Paris.
Bienvenue à vous ce matin sur Europe 1 et bonjour Cédric Villani.
Bonjour Sonia Mabrouk.
L'actualité, c'est une manifestation d'ampleur et des débordements, notamment de l'ultra-gauche hier à Paris lors d'un rassemblement à la mémoire d'Adama Traoré. Une manifestation normalement interdite, vous la dénoncez ?
Il y a eu dans cette manifestation, ces 20 000, c'est spectaculaire, on voit qu'il y a eu... Un très grand élan et à coup sûr beaucoup de sincérité de la part de la grande majorité des personnes qui ont manifesté. Évidemment, il y a eu aussi quelques débordements et on voit bien qu'il y a encore de la confusion sur ce qui s'est passé réellement. Ce qui est important, c'est que cette manifestation ne perturbe pas les enquêtes qui sont en cours, les expertises qui sont en cours, toujours pour se prononcer sur la mort d'Adama Traoré.
Certains veulent, Cédric Villani, faire un parallèle avec la situation américaine et les manifestations anti-racisme et violences policières suite à la mort de George Floyd. Il faut faire un parallèle ?
Il ne faut pas faire de parallèle. Ce sont des situations différentes, ce sont des pays différents, des cultures différentes, et rien qui perturbe le travail nécessaire de la justice. Ici, la boussole, c'est vérité, transparence et laisser faire la justice, laisser agir la justice en toute indépendance. Il faut être très exigeant sur la vérité, mais ne pas se laisser aller à des parallèles.
La police française n'est pas raciste ?
La police française n'est pas raciste. Il y a parfois des débordements, et on l'a vu encore il n'y a pas longtemps, un débordement qui avait été filmé et qui a été condamné avec sévérité. Il faut être intransigeant sur les débordements racistes, absolument intransigeant.
Cédric Villani, j'en viens à vous à présent, à votre situation politique. Tout ça pour ça ?
Tout ça pour rester fidèle à mes valeurs. J'ai commencé cette campagne en homme libre et je la continue et je la conclurai en homme libre.
Vous n'avez aucun accord, Cédric Villani. Vous n'avez aucun partenaire dans cette campagne des municipales. Auparavant, vous avez été exclu de LREM. On a envie de vous demander tout ça, pour être candidat dans le 14e arrondissement de Paris.
La liberté n'a pas de prix, la liberté a un coût et j'en sais quelque chose. Et cette campagne, elle a commencé par le refus d'une décision centralisée, bureaucratique, d'une décision d'appareil, de commission d'investiture. Et je la termine en dehors des appareils, en dehors des accords des appareils, fidèle à mes convictions, sans compromission.
Mais justement, où êtes-vous en réalité ? On a envie de comprendre ce matin l'équation Cédric Villani. Idéologiquement, politiquement, où vous situez-vous ?
Cédric Villani, scientifique entré en politique avec le devoir de parler vrai, d'agir au service de la société et de mettre le savoir-faire, les sciences, les technologies au service du progrès. Je suis entré dans cette élection avec la conviction que pour Paris, le projet d'avenir serait un large rassemblement qui irait de l'écologie de progrès, une écologie de gouvernance, jusqu'à la droite sociale. Un arc central. Et j'ai échoué, il faut dire les choses clairement, j'ai échoué à mettre en œuvre cette ambition. Quand on regarde la carte dessinée par le premier tour de Paris, on voit une moitié de Paris à gauche, une moitié de Paris à droite, et on voit que Paris reste, pour l'instant, clivé, et je le regrette. C'était le sens de ma candidature que de dépasser les clivages et de rassembler.
Vous avez échoué à cause des appareils ?
Les appareils n'ont pas facilité la chose. Mais je ne veux pas faire porter le chapeau à tel ou tel. Ce qui est important pour moi, c'est d'être resté libre et fidèle à mes convictions. Et le 14e arrondissement que vous évoquez, l'arrondissement dans lequel je vis, là est un arrondissement qui incarne tous les enjeux pour lesquels je me suis battu. Un arrondissement dans lequel il faudra faire vivre davantage
sûr,
de démocratie et de concertation citoyenne, davantage d'écologie pragmatique.
Vous avez été très sollicité, aussi bien par Anne Hidalgo que par La République En Marche. Pourquoi avoir rejeté tout accord ? Vous avez été trop gourmand ?
On a lu toutes sortes de choses.
Et alors,
ce qui compte, c'est que j'ai effectué ces discussions avec sincérité et pour bien voir ce qui était proposé, ce qu'il adviendrait dans un cas comme dans l'autre. Et je me suis convaincu que dans un cas comme dans l'autre, je n'aurais pas eu la possibilité d'agir avec l'indépendance et avec au service du projet que j'ai porté.
Je note que depuis tout à l'heure, vous avez dit que vous avez agi avec sincérité, que vous parlez vrai. C'est-à-dire qu'à contrario, les autres ne le font pas dans cette campagne. Anne Hidalgo, Agnès Buzyn.
La question, ce ne sont pas les autres, ce n'est pas mon travail que de commenter les actions des uns ou des autres. La question, c'est d'affirmer ce en quoi je crois. J'ai porté ce programme d'écologie progressiste dont je reste convaincu, certain que c'était le programme qui convenait pour Paris. Celui qui lui permettrait de dépasser les clivages et d'entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque. Celui qui permettrait de développer réellement l'écologie au service des citoyens, au plus près, et en même temps dans une...
L'écologie, Cédric Villani, ils ont conclu un accord avec l'actuel maire de Paris. Est-ce que c'est un accord qui vous paraît logique, naturel avec Anne Hidalgo ?
Je crains que l'écologie, dans cet accord, que les écologistes ne restent qu'un supplétif de la gauche. Et c'était bien mon intention que de montrer que l'écologie n'a pas à s'ancrer résolument à gauche. Elle doit rester, occuper une position centrale. Elle doit irriguer toute la vie politique. Et le programme sur lequel j'avais travaillé était un programme qui n'opposait pas les uns et les autres, qui parlait de développement économique et en même temps de respect de l'écologie, de respect de la biodiversité, de pistes cyclables plus fluides. Un programme aussi qui travaillait sur le lien entre Paris et sa banlieue. Un programme qui voyait les choses en grand, pour un Paris agrandi, pour un Paris dans lequel les sciences et les technologies sont au service du projet
écologique.
Mais en vous
écoutant ce matin, on vous demande pourquoi vous avez échoué avec un tel projet si ambitieux.
Et parfois, on ne réussit pas à convaincre. Et il faut l'avouer en toute humilité.
Convaincre, justement. Est-ce que vous continuez à parler, Cédric Villani, au président de la République, à lui parler avec franchise ?
Je parle toujours avec franchise, et cela aussi fait partie de mon indépendance. Quand on entre en politique, en venant du monde des sciences, on doit aux électeurs honnêteté intellectuelle, un grand respect, on doit dire la vérité. On doit aussi n'avoir aucune compromission par rapport à ses valeurs et ses engagements. Et tous les engagements que j'ai dit pendant cette campagne, le fait que je ne sacrifierai rien à mon indépendance, ma liberté de parole, je les ai tenus.
Vous soutenez toujours le président de la République ?
Je souhaite le succès du président,
c'est-à-dire
de la
clairement,
nation.
Qu'est-ce que vous lui souhaitez? C'est quoi le succès?
Nous sommes ici dans une période très particulière. Nous sortons de cette crise du Covid et c'est un nouveau départ qui commence. Nous avons vu hier,
le spectre d'une crise économique et sociale.
Avec le spectre d'une crise économique et sociale qui est sans doute probablement la plus grave que nous ayons vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a ce paradoxe. On revit d'un côté et on le voit hier, le soleil, les terrasses qui rouvrent. Et en même temps, nous savons que devant nous, il y a des dangers extraordinaires. Et il y a aussi le spectre derrière.
Est-il l'homme prêt à affronter ces dangers?
Le spectre de la catastrophe écologique phénoménale. Et ce que je souhaite, c'est que le président soit prêt à entendre le besoin d'un virage vers davantage d'écologie, davantage de solidarité. Et c'est bien le sens du groupe parlementaire que nous avons créé à l'Assemblée nationale. Un groupe qui n'est ni dans la majorité, ni dans l'opposition.
Et oui, c'est le fameux en même temps. Sauf que Cédric Villani, vous contribuez ainsi justement à l'éclatement de la majorité. Est-ce que cela affaiblit le président? Vous en êtes conscient, oui?
Ce groupe, je vous l'ai dit, n'est pas dans la majorité. Il est indépendant. À Paris, comme à l'Assemblée nationale, indépendant. Et fier et certain de mes valeurs. Ce groupe s'appelle Écologie, Démocratie, Solidarité. Et c'est bien le sens de ce que je veux porter. Et chaque fois que le gouvernement ira dans la bonne direction, vers davantage d'écologie, davantage de solidarité et davantage de démocratie,
vous êtes le juge de paix, vous êtes l'arbitre aujourd'hui? Vous soutenez quand cela vous va dans votre sens et vous dénoncez cela va, quand ça ne va pas.
C'est exactement cela. Ah. Et c'est un engagement qui se fait non pas pour ou contre quelqu'un, mais au service des valeurs, au service des citoyens. Je voudrais ajouter que pour Paris aussi, c'est le redémarrage dans l'après-Covid. Certaines des valeurs, certains éléments que j'ai portés dans mon programme extrêmement fort se trouvent. On voit combien leur importance est renforcée dans cette crise du Covid. On voit combien c'est important d'avoir un accent très fort sur l'éducation, sur le télétravail, sur la modernisation, sur l'automatisation
des lignes de métro. En 2022, une candidature outsider d'une personnalité atypique, original. Peut-être d'ailleurs, certains disent un scientifique. Certains ont même vu du côté de Didier Raoult. C'est une bonne idée.
Nous ne sommes pas en 2022, nous sommes en 2020. Et en 2020, vous me verrez, aux côtés des habitants du 14e arrondissement, prôner inlassablement un renouveau démocratique dans cet arrondissement. Pour qu'il y ait davantage de concertation et pour sortir de projets qui ont été menés en dépit du bon sens avec des concertations menées après les décisions, pour davantage d'écologie, pour un gros accent sur l'éducation, pour la réduction des inégalités avec le développement économique local, avec le développement de l'éducation et des sciences au service des jeunes. Et c'est cela mon engagement de politique au service des citoyens.
La politique n'est pas une science exacte et la science devient de plus en plus politique. Merci à vous d'avoir
été. La politique a besoin de science plus que jamais.
On pourrait continuer comme ça longtemps. Je vous remercie. Merci, on arrive à la fin de cet entretien, c'était un plaisir. Merci Cédric Villani et bonne journée à vous.
Merci Sonia Mabrouk, 8h27, vous êtes sur Europe 1. Europe 1. Salaire, vacances, temps de travail, 13e mois, êtes-vous prêt à faire des efforts, voire des sacrifices pour relancer l'économie? C'est le débat à partir de 8h30, dans deux minutes seulement. Bon réveil à tous.
La matinale d'Europe 1 jusqu'à 9h. Rogner sur votre salaire, prendre moins de vacances, travailler plus. Êtes-vous prêt à faire des efforts pour relancer l'économie? Vous dialoguez avec l'avocat en droit du travail Kevin Mention au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Bonjour Kevin Mention.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous. Cela pose évidemment des questions de droit du travail, même si le contexte est particulier. Omblin en listait quelques-uns, le salaire, les vacances, le temps de travail aussi, le débat sur les 35 heures qui revient, on l'a entendu. Est-ce qu'on a le droit, quand on est une entreprise, quand on est un patron, de demander ce genre d'effort à ses salariés?
Oui, bien sûr, on peut le demander, on peut le proposer. Ça doit être, dans certains cas, accepté directement par le salarié. Dans d'autres cas, ça peut être négocié, par exemple, par accord d'entreprise ou accord de branche. Ça peut très rarement être imposé unilatéralement. Ça peut être le cas, par exemple, sur la prise de RTT à certains moments de l'année. Mais ça reste encadré.
On peut imposer de prendre des RTT à un certain moment de l'année. On peut pas pour autant les supprimer. Par rapport, par exemple, à ce que gagne un salarié lorsqu'il travaille, je voyais la proposition des dirigeants de Ryanair auprès de leur personnel. Baissez vos salaires ou l'on devra licencier. On peut imaginer ça en France?
On peut l'imaginer. Là, il y a un petit chantage à l'emploi quand même. Donc, c'est pas forcément fair play. Mais une proposition comme ça, elle peut se faire. Après, c'est aux salariés de choisir. Moi, ce que je leur conseillerais, par exemple, c'est lorsque l'entreprise en a vraiment besoin et s'ils le consentent, de prévoir ce qui s'appelle une clause de retour à meilleure fortune. C'est-à-dire que l'avantage qu'ils consentent auprès de l'entreprise leur soit redistribué si celle-ci va mieux un petit peu plus tard.
Isabelle nous écrit sur le hashtag Europe 1. Je comprends qu'on nous demande des efforts, mais des efforts sont faits par tous. Et autre que la baisse de la rémunération déjà réduite à cause du chômage partiel. Alors, je veux bien travailler plus, je veux bien perdre des congés ou des RTT, mais pas d'impact sur le net perçu, nous dit Isabelle. Accueillons Jean-Luc, qui nous appelle des Hauts-de-Seine au 39-21. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour.
À Rueil-Malmaison, je crois. Hein.
Tout voilà, c'est ça, oui.
Oui,
voilà,
oui, voilà. Oui. Et vous êtes cadre dans la fonction publique.
Voilà, c'est ça, oui.
Vous êtes prêt à ces efforts ou sacrifices, on choisira le mot, pour relancer l'économie ?
Oui, bien sûr, oui. Sur le plan personnel, par exemple, j'avais différé quelques travaux importants. Donc peut-être que je vais les faire un peu plus tôt en prenant sur l'épargne que j'ai pu que je peux avoir. Et alors, sur le plan encore plus personnel, sur le plan professionnel.
Là, on était sur le plan personnel, mais c'est intéressant, oui, ce que vous dites. Vous aviez, oui, des travaux de prévus pour plus tard. Là, vous vous dites, je vais les lancer maintenant. Ça pourrait quoi ? Faire travailler des artisans, c'est ça ?
Voilà, ça veut faire travailler des artisans. Voilà, oui, je pensais les faire. Enfin, j'ai quelques autorisations à demander. C'est un peu compliqué, enfin, dans le contexte, mais je vais travailler là-dessus, voilà. Et sur le plan professionnel, oui, quand il y a eu la réduction du temps de travail il y a quelques années, là, on était passé, par exemple, nous, dans la fonction publique, de 30 jours de congé à 45 jours, sans véritablement, me semble-t-il, on a fait des gains de productivité, mais est-ce qu'ils ont compensé ces 15 jours-là, je suis pas sûr. Donc, moi, aujourd'hui, je considère qu'on est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, en 2 mois, nous avons perdu énormément de capacités de production, quoi, de ressources au niveau national. Et je crois que l'effort doit être national. Il doit être fait partout. Et moi, je crois que ma contribution, c'est celle-là. Ça serait revenir sur sur la RTT, sur les 35 heures, parce que ça a été. Il faut penser aussi que ça a été le commencement de des problèmes qu'ont eu les hôpitaux, les soignants, etc. C'est parti de là. Je crois
qu'aujourd'hui, dans quelle fonction publique, Jean-Luc ?
Pardon ?
Vous êtes dans quelle fonction publique ?
D'État, fonction publique d'État.
Fonction publique d'État.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, il faut créer de la richesse partout, plutôt que de partager le travail. On a bien vu que le partage du travail n'était pas une solution, puisque le chômage est quand même à un niveau élevé, même s'il avait baissé juste avant la crise, là. Mais il est quand même à un niveau élevé. Donc c'est la création de richesse qui nous aidera, et pas le partage d'un travail qui devienne de moins en moins présent. On a beau dire la machine remplace les hommes, c'est très bien, mais elle contribue pas. Aujourd'hui, les cotisations de sécurité sociale, quelles qu'elles soient, chômage, maladie, retraite, sont fondées sur des personnes salariées. Et c'est ça qui va pas non plus. Donc c'est ça qu'il faut modifier.
Bon, y a réfléchir à de la réforme pour la suite. Ça va presque, je veux dire, ça va de soi. Ça va presque de soi. Jean-Luc, en attendant, réflexion sur le temps de travail. Kevin mentionne ce que vous disiez, c'est que ça doit passer par un accord. De toute façon, avec les syndicats.
Avec les syndicats, parfois avec les salariés eux-mêmes, ça dépend des mesures qui sont prises.
Mais ça ne se passe pas à l'échelle individuelle.
Pas forcément, non, effectivement.
Merci. Alors, Kevin Mansour, je vous garde évidemment en ligne parce qu'il y a beaucoup de remarques, de témoignages. Je remercie au passage Jean-Luc qui nous appelait depuis les Hauts-de-Seine. Je vois que Philippe nous attend, il est gérant d'entreprise à Nantes et on va le retrouver dans quelques toutes petites secondes. Quels sacrifices, quels efforts êtes-vous prêts à faire pour relancer l'économie ? 39-21 et le hashtag Europe 1.
L'avocat en droit du travail, Kevin Mansion, et votre invité, Mathieu Béliard, sur Europe 1. Êtes-vous prêt à faire des efforts pour relancer l'économie ? Vous réagissez au 39-21 et avec le hashtag Europe 1.
Kevin Mansion, quels sont les leviers ? Là, je me mets à la place d'un gérant, d'un chef d'entreprise, qui peut-être directeur de ressources humaines, qui nous écoute ce matin et qui se dit, tiens, quels sont les leviers sur lesquels j'ai le droit d'appuyer, de jouer ? Quelles sont les propositions que je peux faire aux salariés quand je leur demande des efforts ? Au-delà du temps de travail dont on parlait.
On peut en imaginer beaucoup, des propositions de baisse de salaire, fixe, variable, la suppression du 13e mois, de l'indemnité de transport, l'impact sur les RTT. Le gouvernement, en cas d'accord de branche ou d'entreprise, a prévu la possibilité d'imposer 6 jours de congés payés exactement. Et également, voilà, il y a beaucoup de mesures qui peuvent être mises en œuvre. Maintenant, il faut que l'entreprise en ait vraiment besoin, il faut que ça soit bien compris par les salariés, et faudrait que les salariés en aient un retour retour à partir du moment où l'entreprise va mieux et surtout que l'exception ne devienne pas la règle sur ces questions-là.
Oui, parce que je voyais par exemple le message de Claire qui nous dit sur le hashtag Europe 1, c'est pas la première fois qu'on demande à des salariés de baisser leur salaire pour sauver l'entreprise et souvent elle ferme quand même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des garanties de l'autre côté.
Exactement.
Aussi.
Il faut des garanties, il faut que l'entreprise en ait réellement besoin. Voilà, on voit, vous avez cité l'exemple de Ryanair qui propose de baisser les salaires, il n'y a aucune contrepartie. Certes, c'est temporaire, mais c'est quand même prévu sur 5 ans. C'est pas, ça ne doit pas être la règle, ça doit vraiment être une exception et les salariés doivent consentir à ses efforts et avoir un retour par rapport à ça également.
Bon, on a beaucoup de messages, de réactions. Je voyais Olivier qui nous dit faire des efforts dans le monde d'après sans aucun doute, mais nous n'avons pas la feuille de route sur le remboursement de la dette colossale qui s'est creusée. Cela peut aussi freiner la consommation parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Je vois Julien, là aussi, qui nous parle des impôts parce qu'en filigrane, chez Olivier, il faut bien comprendre la peur de voir les impôts augmenter. Julien nous dit oui pour des efforts sur le travail, mais hors de question de payer plus d'impôts, que tout le monde paye des impôts et après, nous pourrons discuter. Accueillons Philippe à Nantes. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu Béliard, bonjour Monsieur Mancion.
Merci d'avoir appelé le 39-21 ce matin Philippe, je sais que vous êtes un fidèle de la matinale d'Europe 1, gérant d'entreprise, 5 salariés, et je crois qu'avec vous on peut dire que l'idéal, c'est quand ça se passe en bonne intelligence entre toutes les parties Philippe.
C'est exactement ça, tout à fait. C'est pour ça que le mot sacrifice ou effort, pour moi, ne sont pas les bons mots, c'est un bon retour des choses. Je dirais l'État nous a aidés, continue à nous aider pendant cette crise. Le retour des choses, c'est effectivement de travailler plus. Et moi, ça se fait effectivement complètement naturellement. Bon, moi, à titre personnel, les vacances, c'est sûr, j'en aurais pas. Et je vous dis, pour moi, c'est naturel. C'est pas un effort. Et les salariés, d'eux-mêmes, m'ont dit, s'il faut moins de vacances, on sera là. Alors, j'ai hors de question de diminuer leur salaire parce que ce qui fait la valeur de mon entreprise, c'est la valeur de mes salariés. Et si
vous êtes dans les services informatiques, si je
ma mémoire est bonne. Oui, tout à fait. Ouais. Et baisser les salaires, c'est démotiver. C'est en cette période, c'est vraiment pas. Pour moi, c'est pas du tout la bonne chose. Par contre, pour les vacances, et je vous dis, j'ai même pas eu besoin de le proposer. C'est eux qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, peut-être que les vacances, on en prendra moins. Profiter que ça reparte un petit peu pour appuyer sur l'accélérateur. Et je vous dis, rendre la monnaie de sa pièce, c'est pas la bonne expression, mais remercier non plus. Mais le gouvernement nous a aidés, à nous de nous retrousser les manches pour dire, ok, vous nous avez aidés. Maintenant, on va vous montrer qu'on peut y arriver, que votre aide a été nécessaire et efficace, même si on peut toujours critiquer, ça n'a peut-être pas été suffisant, etc. Mais en tout cas, l'effort a été fait, je vous assure que psychologiquement, pour les petites entreprises, ça a eu un effet très très bénéfique.
Marie nous écrit, c'est en complément de ce que vous dites Philippe, Marie nous a écrit sur le hashtag Europe 1, il y a ces artisans qui se battent, ces salariés qui ne comptent pas leurs heures, et puis il y a de grandes enseignes qui matraquent leur personnel et leur prix, deux mondes ahurissants de contradictions. Et à travers votre témoignage Philippe de petite entreprise, je voudrais demander à Kevin Mancion si ce genre d'effort de sacrifice, je crois que Philippe a entendu que j'étais en train de chercher le bon mot pour ce débat, est-ce que c'est plus facile à mettre en place dans une PME, dans une TPE ou dans une grande entreprise ?
Ça devrait l'être, effectivement, puisque s'il y a un dialogue social qui est fort dans une petite entreprise, les salariés peuvent comprendre les difficultés. L'entrepreneur, comme Philippe, peut leur expliquer certainement plus facilement. Attention quand même, puisque quand on parle de baisse de congés payés comme Philippe, il faut savoir que les congés payés, c'est pas uniquement du loisir, c'est aussi une question de santé, se reposer, etc. Donc il faut bien réfléchir des deux côtés, mais ils peuvent plus facilement admettre des efforts et peut-être aussi voir des contreparties qui soient négociées avec l'employeur pour après.
On a bien entendu en tout cas dans tous les témoignages et je vous remercie encore Philippe de votre appel au 39-21 ce matin, il nous éclaire. On a bien compris en tout cas ce qui revient des auditeurs d'Europe 1, c'est pas touche au salaire. Hein. Il faut pas qu'on perde d'argent à la fin du mois. D'ailleurs les patrons nous disent non plus qu'ils ne veulent pas que leurs salariés soient moins payés à travers la voix de Philippe. En revanche des efforts peut-être sur le temps de travail ou d'autres avantages. Merci à tous d'avoir appelé et d'avoir écrit sur le hashtag Europe 1 énormément de commentaires. Et merci à vous Kevin Mancion, avocat en droit du travail, d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs ce matin.
Avec plaisir, très bonne journée à vous.
Il est 8h42, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. 9h moins le quart sur Europe 1.
Et ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio avec nous, Sonia Mabrouk et son invité.
Oui, mon invité, Cédric Villani, candidat à la mairie de Paris.
Les manifestations à Paris, des violences, est-ce que vous dénoncez ces violences, Cédric Villani?
Oui. Ta voix qui s'en va.
Sonia Mabrouk, oui, je dénonce les violences, je suis non-violent, convaincu, parce que je ne suis pas musclé. Est-ce que vous faites un parallèle entre ce qui se passe aux États-Unis avec George Floyd et ce qui se passe en France, Cédric Villani? Non, Madame Mabrouk, pas de parallèle. La définition de parallèle, ce sont deux droites qui ne se rencontrent pas. Bon, et votre carrière donc? On a envie de vous dire, Cédric Villani, tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Tout ça pour ça, Cédric Villani? Écoutez, j'ai démarré en homme libre, en dehors des appareils, en dehors des partis, et je finirai en dehors de la mairie. Mais c'est quoi Cédric Villani? C'est quoi l'équation Cédric Villani? C'est quoi l'équation? Moi Cédric Villani, scientifique, entré en politique en 2019 et sorti avec un coup de pied au cul en 2020. Bon, Cédric Villani, on s'emmerde là. Vous voulez pas nous dire, tiens, du mal de Rachida Dati, d'Anne Hidalgo, d'Agnès Buzyn, Cédric Villani? Non, je réponds à côté, car je suis toujours pas musclé. Ma conviction, c'est que l'écologie doit irriguer la vie politique. Non, mais écoutez, ce n'est pas du tout ma question, bordel! Oui, mais c'est ma réponse. Mon programme était super, mais visiblement, les Parisiens étaient trop cons. Bon, ben merci. Bon retour dans le 14e. Faudrait d'ailleurs que j'y aille dans le 14e, je sais pas. Je connais le 8e, je connais le 8, je connais le 16. Jamais été dans le 14. Faudrait quand même vérifier.
On vous emmènera, Sonia. Allez.
Merci. À vous, Julie.
Merci beaucoup. Allez, Mathieu Béliard, autre registre, autre voix. C'est à vous maintenant.
Oui, bonjour. Bonjour, Julie. Bonjour à tous. Oui, c'est Mathieu Béliard, votre serviteur sur Europe 1, qui est là, vous le savez, pour vous informer tous les matins, mais aussi pour vous dire. On s'est dit ce matin, tiens, si on faisait un sujet léger à nos auditeurs, un sujet déconfinement, un sujet, voilà, pour aérer la tête de nos auditeurs, et on a trouvé.
Vos impôts.
Europe 1, regarde le monde changer, mais surtout, regarde l'argent se barrer. Voilà. Car oui, c'est l'info du jour, notre opération Allo Impôts. Pour vous aider, chers auditeurs, à remplir votre feuille d'impôt, je suis un petit peu à la radio, je suis un petit peu, donc aujourd'hui, le doc Eddie Fool de la feuille d'impôt. Ouais. C'est fun. Sûrement, on va avoir plein d'auditeurs qui vont nous appeler. Peut-être même Nicolas Barré devrait nous appeler pour nous parler de ces problèmes d'imposition précoce. Et puis, notre info, c'est... Oui, c'est pas bien. C'est notre info. Allez, c'est Marseille. Allez, un petit peu de sérieux. Allez, on est quand même sur Europe 1, c'est quand même une radio sérieuse. Voilà, c'est Marseille. L'info, notre info, c'est Marseille. C'est le professeur Raoult qui pourrait avoir des ennuis judiciaires. Et oui, on l'a appris, il vendait de la chloroquine sous le manteau sur le vieux port. Il l'a proposé à fumer, à gober ou à sniffer en sachet de 1 gramme. On aurait dû se méfier.
Ah bah puis, oui, alors.
Et puis, l'exclusivité, ce matin. D'un son, j'ai envie de vous parler d'un son. Voilà, c'est Justin Trudeau qui a réagi aux violences aux États-Unis lors d'une interview par un silence. Un silence très long de 20 secondes, et on le réécoute. Oui, ben c'est impressionnant.
Ben voilà.
C'est le très blanc. Très long.
À 22 secondes en radio, c'est.
Ouais. C'est un vrai moment de radio.
Voilà.
Vraiment, certainement la meilleure imitation de la matinale. À vous, Julie.
L'avantage, c'était c'est qu'il n'y a dur, pas besoin de faire l'accent québécois, Nicolas.
Ben voilà. Allez, à Lille, les écologistes et les socialistes ne feront pas d'alliance pour les municipales. Martine Aubry est donc en danger pour sa réélection. Bonjour, Martine Aubry. Mais alors, Martine Aubry, ça faisait longtemps. Oui, bon.
Vive les voitures électriques. Oui, alors, bon, déjà, ça y est, c'est démarré. Alors, déjà, merci de me recevoir. Cela fait longtemps qu'on ne m'avait pas vu.
Oui, oui.
Merci, madame Leclerc. Écoutez, vous m'excuserez si je sens un petit peu la naphtaline, monsieur Béliard. Je regrette que les écologistes, en tout cas, n'aient pas souhaité un accord avec nous à Lille. Et je dois dire.
Mais les écolos, de toute façon, c'est tous des têtes de cons.
Gérard Collomb, mais c'est vous, hein, Gérard Collomb, le maire de Lyon, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, non, je disais, vous m'avez coupé. C'est des têtes de cons, les écolos. Je le dis à Martine, ils veulent juste le pouvoir pour eux tout seuls. Voilà, diriger seul à Lyon, tu sais. Martigny m'ont fait le même coup. Ils veulent saccager Lyon en y plantant des arbres, en faisant pousser du quinoa sur des toits végétalisés, en roulant en trottinette ou en squat board. C'est crasseux à drap de loc. Non, 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 franchement, tu as raison, Martine, de ne pas faire alliance, Martine. Et tu vas voir qu'ils vont t'obliger à détruire ton hôtel de vivre, ville pour vivre dans une cabane en tofu. Hein.
Bon, tu es sûr de ce que tu dis, Gérard?
Voilà, exactement, c'est des bobos, c'est que des bobos. Mais il existe une solution, fais comme moi. Fais une alliance avec la droite, Martine.
Gérard, je suis socialiste. Je ne vais pas m'associer avec la droite. Allons, ce n'est pas ma culture.
Allons, Martine. Mais moi aussi, j'étais socialiste. Mais tu préfères être socialiste et au chômage ou de droite et avec un emploi? Hein? En plus, moi, je vais te dire, je le vis. Depuis que je suis pote avec des gens de droite, je ne le dis pas trop fort, mais je te jure, la vie est géniale. Quand on est de droite, tu sais quoi? On a une belle bagnole. Parce qu'on s'en fout du regard des autres. Hein? On a une grosse montre, regarde. On a une belle maison, des potes qui ont des piscines. Voilà, on s'emmerde plus à se fringuer comme des culs parce qu'on a envie de plaire aux pauvres pour les récupérer. Non, non, franchement, Martine, écoute-moi. Lâche les élastiques, Martine, passe à droite et tu ne seras plus obligé de porter tes pulls affreux qui viennent de la redoute.
Oh là là. Dark Vador.
Rejoins-moi à droite, Martine. Réside le pouvoir. Rejoins-moi du côté obscur de la force politique.
Ah bah dis donc, tenez bon, Martine, hein, vraiment. Merci Gérard Collomb. Tiens, si on parlait météo, le Touquet est devenu la ville la plus ensoleillée de France. Emmanuel Macron, bonjour.
La plus ensoleillée. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, merci. Merci aux météorologistes qui météorolisent, aux touquetois qui touquetisent et au soleil qui donne des coups de soleil. Et puis surtout, bravo. Bravo à... Pardonnez-moi, mais j'ai envie de dire bravo à moi, car décidément, je réussis tout ce que je fais.
Et ça va les chevilles?
Non, mais franchement, rendez-vous compte. Franck Riester, le Touquet était une ville du Pas-de-Calais, et une ville où il faisait gris 363 jours par an. J'y achète une maison et pan, c'est la ville la plus ensoleillée de France.
Eh ben c'est miraculeux.
Mais vous vous rendez compte des miracles? Franck Riester était un petit monsieur transparent et sans charisme, jeune homme ministre de la culture, et là pan. Et là, ça n'a rien changé. Finalement, je suis peut-être meilleur en immobilier qu'en politique.
Comme Trump, hein, d'accord?
Oui, tout à fait. Oui.
Allez, autre chose, où peut-on aller en vacances dans le monde? C'est la question un petit peu complexe que tout le monde se pose. La Grèce, par exemple, autorise l'arrivée des touristes, sauf ceux qui arrivent des régions les plus touchées par le Covid-19, comme l'Île-de-France. Bonjour Jean-Marie Le Pen, ça vous choque?
Ah pardon, excusez-moi. Jeannie, coupe. Et oui, pardon Madame Leclerc, oui bonjour Madame Leclerc, bonjour Julie Métis, bonjour les autres. Et je dois dire ce matin que mon cœur de citoyen du monde saigne, n'est-ce pas? Je trouve cette décision inqualifiable. Je ne trouve pas, pardonnez-moi, je n'ai pas la Covid. Je ne trouve pas les mots, c'est une décision...
Raciste.
Voilà, raciste. Et comment, n'est-ce pas, peut-on exclure des gens à cause de leurs origines ethniques, n'est-ce pas, ethniques? Ou de leur provenance?
Mais attendez, c'est vrai, mais comment se fait-il que le racisme vous choque, vous?
Et comment vous dire? Si je vous choque, vous...
Allez-y.
Oui, mais attendez, ça monte au cerveau, n'est-ce pas? Je vous donne un exemple. J'aime bien le tir à l'arc. C'est pas pour autant que j'aime prendre des flèches dans le cul, n'est-ce pas? Et si vous permettez cette trivialité, vu que, n'est-ce pas, je note que la star politique du moment est M. Bigard. Donc je me permets cette petite chicane. Et donc, messieurs les Grecs, vous n'étiez pas la cible de mon racisme, eh bien, vous le devenez, n'est-ce pas? Et j'arrête du coup en représailles, non seulement la feta, mais aussi l'huile d'olive, je jette mes disques de Madame Mouskouri. Voilà. Oui, très bien, vous êtes réactif en régime. Et je ne regarderai plus The Voice ni 50 minutes insides de votre vil prédécesseur, monsieur Aliagas.
Oh, bah on vous reconnaît bien là, monsieur Le Pen. Hein. Allez, on embrasse Nikos, nous, en tout cas. L'actualité, pour terminer, tiens. C'est le retour à la vie quasi normale, mais avec des nouvelles règles. On ne peut plus être debout au bar, on est obligé d'être assis désormais. Jean Lassalle, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on vous sait bon vivant. Vous en pensez quoi de toutes ces mesures-là ?
Permettez-moi de vous saluer, M. Cabrol. C'est une très mauvaise idée que ne plus être, pouvoir ne plus être debout dans les bars. C'est une mesure tout à fait nuisible à la santé publique, c'est ma conviction. Oui. Car comment... Je peux faire le silence plus long que M. Trudeau. Comment mesure-t-on, j'ai senti la panique dans l'œil de M. Béliard. Vous savez, l'œil des bêtes, je le connais, quand il est perdu. Vous voyez, j'ai senti en régie également les assistants, les sous-fifres qui étaient dans l'inquiétude. Ben, bref, comment mesure-t-on l'alcoolémie dans les beaux villages de nos campagnes? Le professeur Cabrol connaît la réponse. Bien, c'est très simple. On la mesure à la chute verticale du convive. Le convive tombe sur lui-même, tel un chêne, un hêtre, ou un bouleau, ou un peuplier, ou... parce qu'il reste un sapin aussi.
Oui,
un
bon, sapin qu'on y fait,
qu'on abat. Il y en a bas. Vous voyez cet arbre qu'on abat. Et là, les autres convives sont raisonnables. On dit Bernard, une fois qu'il est au sol, on lui dit tu as trop bu. Et on arrête de le servir de façon concomitante. Mais si le dit Bernard est assis en permanence sur une chaise à quatre pieds, ou à trois pieds, c'est un tabouret, il ne tombera jamais. Il va continuer à boire et nous n'aurons aucun indicatif observable de l'extérieur pour ne pas le servir. Donc, il va continuer à boire et à boire sans modération. L'apéro assis, c'est donc une très mauvaise. Il est... Une petite Trudeau. Très mauvaise mesure de santé. Et je vous dis quand même santé.
Eh ben voilà, l'alcool c'est est quand même à consommer avec modération. Hein.
C'est la science qui a parlé.
Voilà.
Merci beaucoup, merci Julie. Bravo aux auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche. La revue de presse qu'à retrouver sur Europe1.fr. Il est là, en studio avec nous, c'est la matinée qui continue. Philippe Vandel pour Culture Média.
Oui, très vite, bonjour, on Philippe. Philippe Googler, bonjour, qui est le présentateur d'émission mythique Faut pas rêver, qui fête ses 30 ans. Et puis un phénomène de seulement 34 ans, le romancier Joël Dicker pour l'énigme de la chambre 622.
Bonne émission à vous, Culture Média 9h-11h avec Philippe Vandel. Omblin, on revient demain matin.
À partir de 5h avec Julien Pierce.
Je serai là dès 6h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.
C'était Mathieu Béliard sur Europe 1.